VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 27 mai 2019. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Dernier bilan du naufrage de samedi en République démocratique du Congo. Au moins 30 morts et des dizaines de personnes portées disparues.
Quatre fidèles ont été tués hier dans une nouvelle attaque contre une église catholique dans le nord du Burkina Faso.
Au Soudan, le principal parti d'opposition a rejeté la grève générale prévue mardi par des dirigeants de la contestation.
Le président américain Donald Trump s'entretient au Japon avec le Premier ministre Shinzo Abe.
Aux élections européennes, la poussée eurosceptique semble avoir été contenue malgré les victoires de la droite en France, en Italie et au Royaume-Uni.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, au moins 30 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres portées disparues dans le naufrage samedi soir d'une embarcation sur le lac Maïndombe dans l'ouest du pays. Le point avec Eric Manirakidza.
Selon le maire d'Inongo, Simon Mbowemba, il y a 183 rescapés, le bilan étant encore provisoire. Le maire a pointé l'état de vétusté du bateau de type baleinière. Le bateau avait embarqué plus de 350 passagers, précisant que les recherches allaient se poursuivre sur le lac Maïndombe. Cependant, le nombre exact de passagers est difficile à établir en raison de la présence de clandestins sur ce bateau. Quasi dépourvu de route, la RDC est souvent endeuillée par ce genre de tragédie. Les naufrages se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de l'absence de gilets de sauvetage à bord et du fait que beaucoup de passagers ne savent pas nager. Mi-avril, au moins 15 personnes avaient été tuées et des dizaines d'autres portées disparues dans le naufrage d'une embarcation entre Goma et le territoire de Kalehe sur le lac Kivu. Au chevet des victimes, le président Félix Tshisekedi avait annoncé le port obligatoire de gilets de sauvetage par les passagers voyageant sur le lac Kivu.
Nouvelle attaque hier contre une église catholique dans le nord du Burkina Faso. Quatre fidèles ont été tués pendant une messe à Toulfé. Les attentats contre des chrétiens se multiplient dans cette région, Jean-Roger Bion.
L'évêque de Waiguya, Justin Kietega, a annoncé que la communauté chrétienne de Toulfé était réunie pour la prière dominicale. Des individus lourdement armés ont attaqué l'église vers 9h, local GMT, au moment où les fidèles célébraient la messe. Selon un habitant de Toulfé, cette attaque a occasionné une panique dans le village où de nombreux habitants se sont réfugiés chez eux ou dans la brousse. Des renforts ont été déployés sur les lieux. Les attaques attribuées à des groupes djihadistes contre les églises ou des religieux chrétiens se sont multipliées récemment au Burkina. Le 13 mai, quatre catholiques ont été tués lors d'une procession religieuse en l'honneur de la Vierge Marie à Zimtenga. La veille, six personnes, dont un prêtre, avaient été tuées lors d'une attaque pendant la messe dans une église catholique de Dablo. Le 29 avril, six personnes avaient été tuées lors de l'attaque de l'église protestante de Silgadji, toujours dans le nord. À la mi-mars, l'abbé Joël Yougbaré, curé de Djibo, a été enlevé par des individus armés. Le 15 février, le père César Fernandez, missionnaire salésien d'origine espagnole, a été tué dans le centre du Burkina. Plusieurs imams ont également été assassinés par les djihadistes dans le nord depuis le début des attaques il y a 4 ans. Ces attaques sont attribuées à une douzaine de groupes djihadistes, dont Ansarou l'Islam, le groupe de soutien à l'islam aux musulmans et l'organisation État islamique au Grand Sahara.
Au Nigeria, au moins 5 militaires ont été tués dans une embuscade tendue par la branche de Boko Haram affiliée au groupe État islamique. Plusieurs autres soldats sont toujours portés disparus. De nouveau, Eric Manirakidza.
Des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont ouvert le feu sur un convoi civil dans le district de Damboa, dans l'État du Borno, situé dans le nord-est du Nigeria. Les militaires escortaient des habitants du village de Sabongarine dans une douzaine de véhicules pour les amener dans un camp de déplacés dans la ville de Damboa. Un milicien qui combat aux côtés de l'armée a indiqué que tous les civils ont pris la fuite. Les attaques se sont accélérées ces dernières semaines dans cette région à 130 km de la capitale du Borno Maïdougouri et l'évacuation du village avait commencé jeudi. Le mois dernier, les djihadistes ont mené un raid contre la base militaire de Mararabar, Kimba, à seulement 3 km de là, faisant 5 morts. 30 soldats sont toujours portés disparus. Lundi, des combattants de l'ISWAP ont attaqué la base de Goubio à 80 km de Maïdougouri, faisant au moins 3 morts. Mais le groupe qui a revendiqué l'attaque a affirmé en avoir tué 20. Plus de 27 000 Nigériens ont été tués depuis le début de l'insurrection il y a une douzaine d'années. 1,8 million de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer.
Au Soudan, le principal parti d'opposition a déclaré hier rejeter la grève générale prévue mardi par des dirigeants de la contestation, alors que les négociations sur une transition politique avec les militaires sont dans l'impasse. Cette controverse reflète une division au sein du mouvement qui fait pression sur les militaires en vue d'un transfert de pouvoir aux civils. Fidel Niogabo.
En réaction à l'impasse des discussions avec les généraux du Conseil militaire de transition, l'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, le fer de lance du mouvement de contestation, avait appelé vendredi à une grève générale les 28 et 29 mai, se disant contrainte de recourir à cette action pacifique faute d'alternative. Le parti Al-Houma, dirigé par l'ancien Premier ministre Sadek Al-Mahdi et membre de l'ALC, a estimé qu'une grève générale est une arme qui ne devrait être utilisée qu'après avoir fait l'objet d'un consensus, appelant à maintenir l'unité au sein de cette alliance. Un autre acteur majeur au sein de l'ALC, le parti du Congrès soudanais, a lui exprimé son adhésion à la grève générale peu après l'annonce d'Al-Houma. Plusieurs corporations professionnelles allant des banquiers aux médecins ont répondu favorablement à l'appel à la grève. Les négociations entre le Conseil militaire et l'ALC ont été interrompues le 20 mai en raison des désaccords sur la composition du futur Conseil souverain qui doit être mis en place pour gérer la transition. L'ALC exige que cette instance soit présidée et composée majoritairement de civils. Les généraux souhaitent à l'inverse prendre la tête de cette instance et obtenir la majorité des sièges. Le Conseil souverain doit se substituer au Conseil militaire pour une période de 3 ans avant la tenue des premières élections post-Béchir.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Le président américain Donald Trump et le premier ministre japonais Shinzo Abe ont donné une conférence de presse aujourd'hui au Japon après leurs entretiens. Elle a porté sur les relations bilatérales, le commerce, la guerre des tarifs entre les États-Unis et la Chine, Kim Jong-un et la Corée du Nord, et aussi l'Iran. À noter que le président Trump avait déclaré auparavant qu'il ne serait pas contre une médiation de Shinzo Abe entre Téhéran et Washington. Selon lui, M. Abe lui en a déjà parlé et il a ajouté qu'il croit, je cite, que l'Iran aimerait parler et que si les Iraniens veulent parler, les États-Unis aimeraient aussi leur parler. On verra. M. Trump a expliqué que Shinzo Abe est très proche des leaders iraniens. Signalons aussi que le président américain est le premier chef d'État étranger à rencontrer ce lundi le nouvel empereur Naruhito.
Malgré les victoires de Marine Le Pen en France, Matteo Salvini en Italie et Nigel Farage au Royaume-Uni, la poussée eurosceptique attendue dimanche aux élections européennes semble avoir été contenue lors d'un scrutin par ailleurs marqué par les bons scores des écologistes. Les détails avec, de nouveau, Jean-Roger Bion.
Selon des projections actualisées dans la nuit de dimanche, le Parti populaire européen reste avec 179 sièges la première force du Parlement européen. Les sociaux-démocrates suivent en deuxième position avec 150 sièges. Les deux principales formations de l'hémicycle européen perdent leur capacité à réunir à eux seuls une majorité pour faire passer des textes législatifs. Ils devront donc composer avec les écologistes qui grimpent de 52 à 70 sièges grâce à leurs bons résultats en Allemagne et en France et les libéraux dont le parti du président français Emmanuel Macron. Les écologistes finissent en France à une inattendue troisième place avec 12% des voix. Ce résultat fait écho au score enregistré en Allemagne par les Verts, deuxième du scrutin selon les sondages, juste derrière le camp centre droit d'Angela Merkel qui enregistre un plus bas historique. Quelque 427 millions d'Européens étaient en âge de participer au scrutin afin d'élire pour 5 ans les 751 membres du Parlement européen, une assemblée qui n'a eu de cesse d'accroître ses pouvoirs. Les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent dès demain mardi pour un sommet afin d'échanger sur les prochaines nominations.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Burkina Faso, le Parlement a donné son quitus pour l'accord de financement du projet de renforcement de la résilience climatique. Ces fonds, qui s'élèvent à 8 millions de dollars, sont un don de l'Association internationale de développement. Le projet, d'une durée de 5 ans, sera mené par l'Agence nationale de la météorologie. Il a pour but de fournir des prévisions météorologiques en temps réel afin de permettre aux petits producteurs et aux agriculteurs de faire face aux menaces d'inondations. Sa mise en place favorisera l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. En 3 ans, le Kenya a rapatrié 10,1 milliards de dollars dans le cadre d'une amnistie fiscale. Ces fonds, qui représentent plus du tiers du budget annuel du pays, avaient été placés dans des comptes offshore selon l'autorité kényane des revenus. Les 16 000 bénéficiaires de l'amnistie n'étaient pas obligés de déclarer la source de leur patrimoine ou de rendre compte des arriérés d'impôts. L'amnistie fiscale, qui vise à encourager les Kenyans à rapatrier leur fortune à des fins de développement, devait prendre fin le 30 juin prochain. Pour terminer, la semaine dernière, les prix des métaux de base échangés à Londres ont reculé. Le cuivre a dégringolé pour la 6e semaine consécutive, sa tonne s'échangeant vendredi dernier à 5 971,50 $ contre 6 054 $ le vendredi précédent. Le conflit commercial sino-américain pèse sur les perspectives de la demande. L'aluminium, l'étain et le zinc ont aussi baissé. Les prix de la tonne de nickel et de plomb, en revanche, ont légèrement augmenté.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Du football pour démarrer avec le mondial des moins de 20 ans et le Sénégal enchaîne.
Après sa victoire contre Tahiti 3-0, les Lionceaux ont remporté leur deuxième victoire hier face à la Colombie, score 2-0. Le Sénégal est leader de son groupe avec 6 points devant la Pologne, vainqueur de Tahiti. A noter que pour leur première sortie dans cette compétition, le Mali a fait match nul 1-1 face au Panama et l'Afrique du Sud battue par l'Argentine 5-2.
Football au niveau des clubs, Zamalek remporte la Coupe de la CAF aux dépens de Berkane.
Le club égyptien est sacré vainqueur après avoir battu les Marocains de Berkane au tir au but 5-3 à Borg Al-Arab, battu 1-0 à l'aller. Les Kerotes se sont imposés sur le même score grâce à un pénalty transformé par Mahmoud Allah à la 55e minute de jeu. Ils garnissent un peu plus un palmarès déjà riche de 5 Ligues des champions de la CAF.
En Ligue des champions, la finale aller a eu lieu ce week-end. Et l'Espérance de Tunis a pris une légère option sur la victoire.
Oui, les Tunisiens qui ont obtenu le match nul 1-1 sur la pelouse du Wydad de Casablanca. Un bon résultat, même si l'Espérance n'a pas profité de sa supériorité numérique et laissé le WAC peu brillant revenir dans ce match. Le match retour est prévu pour vendredi prochain.
On fait maintenant le point des championnats et au Cameroun ont joué la 3e journée des play-offs.
Et l'Union des mouvements sportifs de Loum a pris une belle option sur le titre de champion en dominant Faucheux FC 2-0. Fin de saison, par contre, en Algérie. Et l'USM Alger a remporté le titre de champion à l'issue de la 30e et dernière journée. Vainqueur 3-1 à Constantine. Les Rouges et Noirs terminent avec 53 points, un de plus que la JS Kabylie. Et puis, au Burkina Faso, Raimo FC, vainqueur de l'AS Sonabel 3-2 en finale de la Coupe du Faso, s'offre le doublé, une première pour le club.
Basketball avec la Ligue africaine des champions et le Primero sort vainqueur.
Oui, et pas de doublé donc pour les Marocains de l'AS Salé tenant du titre dans une ambiance survoltée. Les Angolais, parfaitement entrés dans leur match, très bon premier carton, on finit par s'imposer largement 83-71 et ramène la coupe à la maison. Le dernier succès d'un club angolais dans cette compétition remontait à 2015. C'était celui du Petro Atlético de Luanda. Avec ce sacre, le Primero do Agosto décroche donc sa 9e couronne de son histoire, sa première depuis 2013. Et puis la NBA pour finir Idrissa. On connaît désormais l'affiche de la finale de cette saison à l'issue des playoffs.
Toronto s'est qualifié samedi pour la première fois de son histoire pour la finale NBA en remportant la finale de la conférence Est face à Milwaukee. La franchise canadienne s'est imposée 100-94 dans le match numéro 6 et a battu la meilleure équipe de la saison régulière, 4-2, après avoir perdu les 2 premiers matchs de la série. Elle défiera à partir de jeudi le double champion NBA en titre, Golden State, qui disputera pour sa part sa 5e finale consécutive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Nations Unies ont rendu hommage vendredi dernier aux soldats de la paix à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus. La médaille pour courage exceptionnel, Mbaye Diagne, a été décernée à cette occasion au soldat malawite Chensi Chitete et à titre posthume. Pour rappel, Mbaye Diagne était un casque bleu sénégalais d'une bravoure exceptionnelle, mort au Rwanda en sauvant des vies pendant le génocide de 1994. Au micro d'Irénée Herman Ungbo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, nous donne davantage de précisions sur l'octroi de cette médaille aux soldats de la paix malawite.
C'est la première fois depuis la création de cette médaille que nous la délivrons à un soldat du Malawi qui, lors d'une offensive de la MONUSCO contre ce groupe ADF, a protégé ses camarades et plus spécifiquement a perdu la vie lorsqu'il a voulu porter secours à un de ses camarades du contingent tanzanien qui était blessé et qui a été sauvé grâce à lui. Mais malheureusement, ce soldat qui s'appelle un soldat Chitete a perdu la vie.
À quel type de soldat peut-on décerner la médaille Ndiaye?
C'est une médaille qui vise à reconnaître des actes d'une bravoure exceptionnelle, c'est-à-dire les actes qui traduisent un comportement d'une bravoure qui va au-delà du normalement attendu d'un soldat dans l'exercice de son devoir.
Monsieur Lacroix, l'ONU se retrouve face à un nouvel ennemi, notamment en RDC. Je veux parler de l'État islamique qui a récemment revendiqué une attaque dans l'est du pays. La nature des opérations de maintien de la paix va-t-elle finalement changer? Quelle est votre nouvelle approche pour être plus efficace sur le terrain?
Nous sommes confrontés à des environnements qui sont de plus en plus dangereux, avec des groupes armés qui sont parfois aussi des groupes terroristes qui attaquent les populations, qui visent parfois de prédation, qui tuent, qui pillent, qui violent et qui aussi attaquent de manière délibérée nos soldats de la paix. Et face à ce défi, nous devons nous adapter. Ça veut dire avoir d'abord un état d'esprit différent, bien comprendre les nouvelles contraintes du maintien de la paix d'aujourd'hui, améliorer l'entraînement, améliorer l'équipement, veiller à ce que les chefs soient à la fois conscients de ces nouveaux défis et l'état d'esprit nécessaire pour y faire face. Cela implique aussi d'améliorer le soutien médical à nos soldats de la paix. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours. Je crois que nous voyons déjà des premiers résultats parce que nos opérations sont plus mobiles, plus réactives, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est un processus qui doit s'étendre sur la durée avec le soutien des États membres.
Des ministres du G5 Sahel étaient devant le Conseil de sécurité et ils ont demandé une coalition internationale pour le Sahel. Comment avez-vous accueilli cet appel?
Nous sommes préoccupés par la situation au Sahel aujourd'hui. Il y a un certain nombre de réponses, d'outils qui sont en place et qui doivent être soutenus. La MINUSMA, la force du G5, la force Barkhane, les forces armées nationales, celles du Mali et d'autres pays du Sahel. Vous connaissez la position des Nations Unies. Depuis le début, nous avons plaidé et continuons à plaider pour que le financement de cette force soit prévisible et soutenable, c'est-à-dire sur la base de contributions obligatoires. C'est la prérogative des États membres de décider en ce sens. Mais dans l'attente, nous sommes déterminés à continuer à soutenir la force du G5 Sahel. Cependant, nous sommes persuadés qu'il faudrait faire plus. Il faudrait un effort accru.
Mais quand vous parlez d'effort, vous pensez à quoi pour terminer?
Soutenir et persister dans l'action qui est menée à travers la MINUSMA au Mali, les efforts politiques qui sont très importants pour achever la mise en œuvre de l'accord politique, les efforts pour renforcer les forces de sécurité des différents pays sahéliens. Il est aussi important que les pays sont maintenant affectés par ce phénomène. On a vu récemment les attaques qui avaient lieu au Bénin. Des pays comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire sont également menacés. Il est important que ces pays se mobilisent également et qu'ils soient soutenus.
Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, joint à New York par Irénée Herman Ungbo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Cameroun, dans les zones anglophones, les universités privées s'installent ailleurs à cause de l'insécurité qui y prévaut. C'est le cas de l'Institut Saint-Louis, qui était basé à Bamenda, est considéré comme un pionnier dans la formation sur les métiers de santé. C'est à Douala, la capitale économique, que cet institut est désormais implanté, nous dit notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Dans une ambiance studieuse, une soixantaine d'étudiants francophones et anglophones suivent les explications du professeur dans le campus de l'Institut Saint-Louis à Douala. Angèle est l'une des étudiantes. Elle vient de Batibo, une localité située à 50 minutes de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, en zone anglophone.
Normally, I wanted to go to Bamenda.
Angèle Babekeli, étudiante en soins infirmiers.
Studies here are good.
Les études sont bonnes ici. Les enseignants sont compréhensifs et dispensent bien leurs cours. À cause de la crise, quand j'ai appris qu'une branche de Saint-Louis avait été ouverte à Douala, j'étais contente et j'ai décidé de venir ici.
Aimé Beyasso Fozok est un autre étudiant. Il aspire à une carrière de technicien principal d'odontostomatologie et il n'a pu suivre sa formation à Bamenda.
J'ai eu le concours récemment qui m'a mené à Bamenda. Il aurait dû avoir des interférences avec les parents puisque comme c'est en zone d'insécurité, les parents ont eu sens à nous envoyer à Bamenda.
En 16 années de fonctionnement, l'Institut Saint-Louis avait à Bamenda ses propres locaux, des équipements modernes, mais aussi des enseignants expatriés.
Tout ça est fini aujourd'hui et à 62 ans, 63 ans, je recommence quelque chose que je pensais avoir déjà fait.
Docteur Nick Ngwanyam, promoteur de l'Institut Saint-Louis de Bamenda.
Nous avions une enseignante indienne qui est maintenant en Ouganda. Avant de quitter Bamenda, quand les choses allaient bien, nous avions 1600 étudiants. Plus de la moitié étaient francophones, venant des régions francophones pour étudier avec nous. Et nous construisons actuellement une autre école à Ndou dans mon village. Nous avons dû déménager de Bamenda parce que la vie était très inconfortable. Il y avait déjà beaucoup d'enlèvements, donc je n'avais qu'à partir. Heureusement, je suis allé au ministère de l'enseignement supérieur. J'ai reçu l'autorisation de créer un autre institut à Douala.
50% des investissements du système éducatif dans les deux régions anglophones ont été affectés par la crise qui sévit depuis 2016, selon un rapport du groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, qui regroupe les plus grands opérateurs économiques du pays. Les pertes financières sont énormes pour le promoteur de l'Institut Saint-Louis, Dr Nick Ngwanyam.
Au moment où je quittais Bamenda, les activités économiques sur l'ensemble de la région du Nord-Ouest avaient chuté de 40%. C'est vraiment pénible pour nous. La meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est le retour de la paix afin que nous puissions continuer nos activités.
Pour relancer les activités académiques de l'Institut Saint-Louis, qui loue actuellement des locaux pour fonctionner, le gouvernement a accordé à son promoteur l'autorisation d'ouverture de 3 nouvelles filières de formation pour le nouveau campus de Douala, encore en construction. Emmanuel Zulta, de retour de Douala, VOA Afrique.
Au Mali, les inondations de mi-mai à Bamako ont fait 324 sinistrés. Certains ont été pris en charge par l'État, d'autres sont toujours à la recherche d'un nouveau toit. Reportage de Kassim Traoré.
C'est un ancien centre de formation professionnelle que le gouvernement a mis à la disposition des sinistrés des inondations du 16 mai 2019. Assetou Koulibaly, ménagère, raconte.
À 4h du matin, il pleuvait.
Je dormais. J'ai été réveillée par ma fille à cause de la pluie. Aussitôt, j'ai dit à mon fils et à sa femme de se suspendre au mur. Mon enfant est venu m'annoncer que la maison est tombée et que ma petite fille et ma belle-fille sont mortes.
Dans la vaste cour du centre mabilé de Sogoninko, les quelques rares sinistrés encore là ne sont pas prêts à oublier les inondations du 16 mai dernier.
Quand il a commencé à pleuvoir, nous dormions. Aussitôt, nous nous sommes précipités pour arranger nos affaires. Nous avons tout perdu. 3 enfants ont perdu la vie.
Tout ce qu'on avait comme matériel, nourriture, l'eau est rentrée. Ce qu'on a pu sauver, on a sauvé. Ce qu'on n'a pas pu sauver, parce que l'eau était montée jusqu'à 1 mètre.
Chaque année, nos maisons sont inondées. Il y a toujours des morts et des dégâts matériels. Nous avons besoin d'aide. Plusieurs maisons sont tombées.
Lieutenant-colonel Bakary Daou, directeur régional de la protection civile de Bamako.
On n'est pas en saison de pluie et les gens sont surpris par une forte pluie. Et cette pluie, je ne maîtrise pas la quantité tombée, mais c'est une forte pluie qui n'a pas l'habitude de tomber même pendant la période hivernale. Et le second aspect, c'est que les gens ne sont pas préparés pour la saison hivernale et que les caniveaux sont bouchés. Au-delà de l'ancrage des caniveaux, et les habitants sont installés d'une façon anarchique au niveau de l'île de Marigot.
Au Mali, on apprend que 55 à 338 mm d'eau ont été enregistrés par endroit. Moussa Touré, représentant observation des prévisions à Mali Météo.
Nous avons eu enregistré dans une de nos stations à Sotiba 138 mm et à Bamako-Ville, nous avons eu environ 58 mm, ce qui explique justement la disparité entre les quantités de pluie. Qu'à cela ne tienne, 138 mm, on a dépassé largement le seuil d'alerte rouge. Ce seuil est fixé à 73 mm pour Bamako.
Si certains sinistrés sont en location grâce au soutien de l'État, d'autres sont restés sans maison, comme la vieille Assetou Koulibaly de Nyamakoro.
Ils sont pris en charge sur le plan psychologique, sur le plan sanitaire aussi bien, sur le plan nourriture. Ce n'est pas suffisant. Des dispositions sont en train d'être prises, et aujourd'hui d'ailleurs, pour que ces sinistrés-là puissent regagner peut-être d'autres maisons en location avec un accompagnement. C'est ce qu'on nous a dit quand même du côté du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Nous avons des logements sociaux qui sont construits et je pense que quelques sinistrés peuvent en bénéficier.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Togo, selon notre correspondante sur place, les hôpitaux publics n'ont pas bonne réputation. Une situation qui fait que la population ne fait pas confiance au personnel soignant dont l'accueil laisse à désirer. Pour redorer le blason des hôpitaux publics, le ministère de la Santé a opté pour leur contractualisation. Lancé en 2017, 2 ans après leur état bilan, reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Le Togo s'est inscrit depuis 2 ans dans une approche contractuelle de ses services de santé. L'objectif est d'améliorer le système de santé en assainissant la gestion des finances des hôpitaux. Après la phase pilote qui a concerné une dizaine de centres hospitaliers, le bilan est reluisant, nous dit le ministre togolais de la Santé, le professeur Mustapha Niziyawa.
Cette contractualisation a beaucoup assaini la gestion des finances des hôpitaux. Et ça a beaucoup impacté sur les taux de consultation, les taux de fréquentation, l'aspect maternité, l'aspect prise en charge chirurgicale. Maintenant, c'est d'équiper et de réhabiliter les différentes formations sanitaires, ce qui fait que les deux aspects réunis vont nous permettre de mettre en place un système de santé de base robuste, correct pour nos populations.
Reconnaissant que la contractualisation a contribué à une certaine amélioration des services dans les hôpitaux publics, ces Togolais appellent à plus d'humanisme dans les centres sanitaires.
On a senti qu'il y a une nette amélioration de la vie sanitaire. Donc dire qu'on doit améliorer quelque chose, c'est l'accueil et traiter tout le monde de la même manière. Ce n'est pas parce qu'on me connaît que je dois bénéficier des soins de santé de qualité. Tout le monde doit être respecté en tant qu'être humain.
Beaucoup d'améliorations, surtout dans le cadre du service qui est rendu. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de choses qui changent dans notre système sanitaire. Je pense qu'on doit mettre encore un peu d'humain dans nos centres hospitaliers.
En visite au Togo à la fin du mois d'avril, la directrice Région Afrique de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, a estimé que grâce à la contractualisation, le Togo peut augmenter le budget alloué au secteur de la santé. Docteur Matidizo Mouetsi.
Nous constatons dans beaucoup de pays, y compris ici au Togo, qu'il y a lieu d'augmenter l'allocation du budget public dans le système de santé. Je suis très satisfait que ici, le ministre a déjà constaté ça et il a pris action avec ce projet de contractualisation d'aller vers ça. Les pays dans le bon voie. Ce que nous pouvons faire comme l'OMS, c'est appuyer ce processus avec les hôpitaux.
Selon les résultats rendus publics par le ministère de la Santé, la disponibilité des médicaments dans les centres contractualisés est supérieure à 95%. En ce qui concerne les chiffres d'affaires, ils ont connu une augmentation entre 22 et 69% selon les centres de santé. Kailson, Lomé, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.